amis, de regarder un peu la position de Marita. Puisque Mounier et Maritain se tiennent, et que Maritain est quand même un tonniste qui a joué un certain rôle, on ne peut pas le nier. C'est intéressant de voir sa position par rapport à la personne. Parce que je suis de plus en plus persuadé que c'est par ce problème de la personne qu'on peut faire le ski de printemps par rapport à l'histoire de la philosophie et ce qu'ils appellent en Suisse le ski de printemps. Tous les sommets. Ça me semble très net, réfléchissez là-dessus parce que c'est quand même important d'essayer de réfléchir. Le problème de l'âme a été le grand problème de la philosophie grecque. Ce problème de l'âme s'est achevé avec les stoïciens. Et avec les stoïciens, on est en présence d'un nouveau problème, qui est le problème de la personne. C'est assez curieux du reste. Je crois qu'on peut ponctuer de cette manière-là. Aristote a-t-il le dernier mot sur l'âme? Ça, je crois. C'est difficile d'aller plus loin. Saint Thomas va un peu plus loin en tant que théologien. Au plan philosophique, ça va loin, ce que dit Aristote. Et les stoïciens, rejetant la distinction de l'âme et du corps, et c'est intéressant de voir que c'est en rejetant la distinction de l'âme et du corps, en revenant, comme dit Breyer, à la grande tradition grecque, commence à découvrir le problème de la personne. Alors vous voyez comment la providence fait que ce problème, puisque la philosophie stoïcienne était présente à Rome à l'arrivée du christianisme, c'est cette philosophie stoïcienne qui était la présence des Romains en Israël. La confrontation nouvelle avec le christianisme se fait par la personne, avec des modalités très différentes. Mais c'est quand même le problème de la personne. Et ce problème de la personne s'est développé énormément chez les théologiens. Parce que c'est là où on voit peut-être le mieux l'apport de la révélation. Il faudrait se poser la question pourquoi. Et que ce problème de la personne va prendre de plus en plus d'importance jusqu'à la philosophie hegelienne. Je me demande s'il ne faudrait pas être très attentif à cela dans la philosophie hegelienne. Vous voyez, je suis luthérien. La fameuse affirmation que disait Bourgeois comme un peu l'entrée, et comme Bourgeois est très, monsieur Bourgeois est très 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 hegelien, il a saisi l'intuition d'Hegel, ça j'en suis sûr, autrement il ne pourrait pas ordonner Hegel comme il ordonne. Et quand il dit je suis luthérien, ça veut dire qu'au fond il pense que toute la philosophie hegelienne est commandée par le jugement du croyant. Le jugement du croyant porte sur Dieu, je suis, surtout pour un protestant, très incliné vers l'Ancien Testament. Je suis. C'est un jugement d'existence personnelle, le je. Et si vous suivez la philosophie hegelienne, peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus, parce que ça me semble très intéressant et très important. Au fond, il identifie la dialectique avec le problème de la personne, dans ce qu'il a de plus absolu. Et cet absolu de la personne, il dit textuellement, c'est Dieu. Donc, le sommet de la philosophie hegelienne, le point de départ, c'est « je suis ». le je suis, qui, vous comprenez, est merveilleux, parce que c'est le je suis de Dieu, et c'est le je suis. L'alpha et l'oméga se rejoignent. Et dans la foi, c'est vrai. La fameuse parole de Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, en face du peuple d'Israël, qui se scandalise. Il dit, mais regardez ce que dit le prophète. Vous êtes fils de Dieu. Je suis persuadé qu'il y a eu là une intuition très très forte chez lui, qui aboutit au terme à avoir une trinité, la dialectique au sommet, c'est la trinité. Vivant profondément en nous et ne faisant qu'un avec nous. Puisque la distinction de l'ordre surnaturel et l'ordre naturel n'est plus vue. De sorte que on a le sommet de la philosophie aristotélicienne, l'âme, et le sommet de la philosophie, à partir des stoïciens jusqu'à Hegel, le sommet de la philosophie hegelienne, c'est la personne. La personne conçue dialectiquement. Et vous comprenez, quand saint Thomas dit que les personnes divines se conçoivent à partir d'une opposition relative, c'est facile de comprendre ça dialectiquement. C'est la même chose. Pour un hegelien, c'est la même chose. Et donc, c'est la dialectique vue divinement et s'identifiant à la très sainte Trinité. Alors on a ce sommet, parce qu'on ne peut pas nier, et ça, M. Bourgeois le dit avec force, et c'est ça qui est intéressant. Il a affirmé, je n'ai rien à vous montrer de plus fort dans toute la philosophie contemporaine et la philosophie moderne. Donnez-moi quelque chose de plus fort que Hegel, j'y adhère. Mais à partir de Hegel, on n'a rien dit. Et c'est vrai, d'une certaine manière, on n'a plus rien dit. Tandis que la philosophie hegelienne, elle a une structure d'une très grande force. Et le sommet, c'est la personne. Ah, bon, vous voyez ces deux sommets de la philosophie. Aristote, l'âme, Hegel, la personne. Et une personne vue d'une façon dialectique, donc trinitaire, où la foi et la raison et l'intelligence, la pensée s'identifient. Je crois qu'on peut dire ça. Et c'est très éclairant parce que c'est une position de la phénoménologie de l'esprit. Hein. Donc une position d'immanence. Et dans cette immanence, la transcendance. Mais c'est une position d'immanence du vécu. Il faut songer à ça parce que je me demande si ça ne donne pas très grande lumière sur beaucoup de problèmes. Vous voyez, déjà depuis un certain temps, il me semblait bien. Parce que là, la philosophie grecque, quand même, je l'ai beaucoup enseignée. Et de plus en plus, c'est le problème de l'âme qui m'a semblé être le problème dominant de Platon et le problème dominant d'Aristote. C'est l'âme. Lier l'esprit et l'âme chez Aristote. Chez Platon, l'esprit et l'âme est donné des points de départ, parce que l'âme est plus spirituelle que âme par rapport au corps. Donc l'âme est spirituelle tout de suite, puisque l'âme en soi, l'âme forme en soi est toute spirituelle, tout de suite contemplative. Aristote fait la distinction entre l'âme et l'esprit, le nous. Et il essaie de voir le joint. Or, voir le joint du nous et de l'âme, c'est le problème de la personne. C'est bien évident. C'est la personne vue comme manière d'exister. L'âme est un principe et la personne est une manière d'exister. Et vous voyez, dans l'hégélianisme, confusion entre le pose et le tiesti. À Fribourg, il y a un étudiant, pour le père Borensky, un étudiant qui était très intelligent, un étudiant allemand, très intelligent, qui avait fait sa thèse sur Hegel. Il montrait que la philosophie hegélienne était analogue à la philosophie d'Aristote, du côté du conditionnement. Ça m'avait m'avait beaucoup impressionné. Qu'au fond, Aristote, c'était l'analyse. Et comme on n'analyse pas le conditionnement, on est dans la dialectique. Le pose, ça ne s'analyse pas. Ça se décrit. Et la description, pour être parfaite, implique le point de vue de la dialectique. La dialectique permet la synthèse des poses et du pose. C'est ça qui est si extraordinaire dans cette pensée hegelienne. On est en face du conditionnement pris comme absolu. La manière d'exister, vous comprenez que le « je suis », c'est la manière d'exister. C'est la personne. La personne, c'est la manière d'exister. Tandis que l'âme, c'est un principe. C'est la très grosse différence. La philosophie de l'âme est une philosophie d'analyse. Tandis qu'au contraire, avec la personne, du reste, c'est très net chez les stoïciens. C'est le pose qui commande tout chez les stoïciens. C'est une manière d'exister. Et dans Hegel, il n'y a plus que la manière d'exister. Vous voyez, partant de la foi, Hegel a fait de la théologie sans philosophie. Il a fait ensuite sa philosophie sans théologie, si j'ose dire, ou la philosophie absorbant la théologie. Et donc on est dans le comment. Et c'est le comment qui l'intéresse avant tout. Comment l'être existe-t-il? Comment l'esprit existe-t-il? Et c'est le lien entre l'être et l'esprit qui est le gros problème. Et c'est résolu par le problème de la personne. Alors, c'est dans ce climat qu'il faut comprendre les thomistes comme Maritain, qui essaient de comprendre un peu. C'est Maritain manque de métaphysique pour donner la solution, ça c'est sûr. Parce qu'au fond, seule la métaphysique, c'est ce qu'on essaiera de voir après, seule la métaphysique peut absorber Hegel. Et il faut une fameuse métaphysique. Et je crois que Hegel oblige le retour à la métaphysique. Si on veut sauver la distinction intelligence et foi pour le croyant, si je veux sauver la distinction intelligence et foi après Hegel, ben il faut une métaphysique qui aille très loin et qui soit extrêmement purifiée. Vous voyez, c'est ce que je crois que le Saint-Père sent, ça très fort. Parce que le Saint-Père, dans sa philosophie, c'est une philosophie post-hegelienne, donc qui n'est pas purifiée de Hegel. La philologie n'est pas purifiée entièrement de Hegel. Elle est en opposition, elle n'est pas purifiée totalement. Et il sent très bien que c'est la métaphysique qui peut seule purifier complètement de Hegel. Retrouver à partir de l'hegelianisme la distinction de l'être et du devenir, c'est très difficile. C'est tout le problème de Heidegger. Et alors, Heidegger sépare l'être et le devenir, mais c'est pas une solution. Il faut redécouvrir l'être dans le devenir et au-delà du devenir. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez comprendre, en poussant jusque-là, la distinction entre être et devenir, et vous pouvez repenser le problème métaphysique face à la dialectique, en comprenant que la dialectique demeure dans le comment. Pourquoi aime-t-on tant les néoplatoniciens de notre monde d'aujourd'hui? C'est parce que le néoplatonisme et l'hegelianisme s'accolent. Ça va ensemble. Puisque la participation, c'est de l'ordre du comment. Et donc, si vous êtes néoplatonicien, vous pouvez être hegelien. Et vous le serez forcément, il n'y a pas. L'hegelianisme, c'est le néoplatonisme poussé jusqu'à son extrême exigence. C'est un néoplatonisme systématique. Il c'est systématisé. Le néoplatonisme est très très souple. C'est son charme. Il est même poétique. Il est même mystique. Regardez Plotin. C'est mystique, Plotin. C'est pour ça qu'on l'aime tant. C'est une philosophie mystique. C'est extrêmement beau. Et hegelien. Parce que c'est parallèle. C'est le conditionnement qu'on regarde. Ce n'est pas l'analyse des principes. Alors on peut chercher les liens et on comprend comment la science et la dialectique hegelienne peuvent aussi s'harmoniser. Puisque c'est la loi. C'est plus le principe, c'est la loi. Alors si on confond loi et principe, ben, on n'en sort pas et on ne peut pas en sortir. Vous voyez, on sent très bien ce climat. Et ça me semble très important de comprendre que le problème de la personne, c'est le problème moderne de la métaphysique. C'est le problème moderne de la philosophie. Alors, si vous êtes hegelien, la personne, c'est Dieu. Et c'est la personne trinitaire dans la dialectique. C'est votre trinité que vous portez. Si vous êtes aristotélicien, c'est-à-dire que vous acceptez qu'une philosophie implique une analyse et une recherche des causes, puisque c'est ça, l'aristotélisme, c'est pas autre chose. C'est la recherche des causes à partir du jugement d'existence, mais le jugement d'existence qui n'est pas le jugement à partir d'une manière d'exister et qui veut regarder ce qui est. Alors à ce moment-là, vous comprenez que le gros problème d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment une métaphysique réalise de l'être, aboutit à la personne. Ça me semble ça. Alors voyons Maritain là-dessus. Préambule. Pour montrer que le problème de Maritain est très intéressant comme une espèce d'ébauche. C'est une ébauche. Et c'est très confus. Parce que Maritain n'est pas clair. C'est très très confus. Quand vous essayez de chercher ce que c'est que le beau chez Maritain, c'est très difficile à comprendre. Maritain a essayé d'éclairer les récentes recherches sur la personne, spécialement celle de Mounier, en revenant à saint Thomas. Il aurait pu partir de Hegel, ça aurait été plus intéressant que Mounier. Ça a plus de tenue. On comprend comment, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, c'est le père Geffray qui dit ça. Structure de la personne et rapport interpersonnel. Donc, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, on verra ce que ça veut dire, on en arrive à opposer personne et nature. Alors que saint Thomas, dans un regard métaphysique beaucoup plus pénétrant, les avait saisis dans une unité fondamentale. C'est très vrai ce que souligne Père Geffray là. C'est assez juste. Vous savez bien le grand problème de l'éthique d'aujourd'hui. Le grand problème de l'éthique d'aujourd'hui. Devons-nous maintenir une éthique qui se fonde sur la nature, dite thomiste, ou une éthique qui se fonde sur la personne, dite phénoménologique? Après Kant, la nature n'existe plus. Entrons dans la subjectivité transcendantale. Et on a une éthique de la subjectivité. Et on a une éthique personnaliste. C'est vrai que c'est à grosses, grosses difficultés aux problèmes éthiques. L'évêque de Moulins, passé à Saint-Jodard hier, et dans la conversation, on parlait justement de ce problème de la philosophie morale et la théologie morale. Alors il m'a dit oui, pour moi, c'est un Breton, il ne faut pas l'oublier, quand on est au chapitre, j'ai demandé à tous les Bretons de se lever. Alors on a vu une armée de Bretons seulement. Et il a dit, je ne croyais pas qu'il y ait tant de Bretons ici. Et on avait presque envie de dire, autrement je serais venu plus vite. Alors je lui ai demandé de bénir la communauté en partant. Je lui ai dit, vous pourriez peut-être donner une bénédiction spéciale pour les Bretons. Il a dit, oh, c'est pas la peine. Ils ont la bénédiction du fait même qu'ils sont Bretons. Ça, c'est la subjectivité de la personne. Oui. Donc, philosophie éthique s'appuyant sur la nature. Philosophie éthique personnaliste s'appuyant sur la subjectivité. Oui, c'est pour ça que le père Geffrey dit, le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique. De faire que l'éthique soit plus une éthique qui se fonde sur la nature, mais une éthique qui se fonde sur la personne. Et qu'on soit en présence d'une éthique personnaliste. Oui. Alors, il n'y a plus à ce moment-là de loi. Il n'y a plus que la conscience. Vous voyez, poussant jusqu'au bout, on n'aura plus de la situation. Et ça, c'est le gros problème. Et vous voyez que ça touche directement le problème de la personne. C'est ça qui m'intéresse à Dieu. Mais tout est là. Dans la perspective du personnalisme, la personne n'est plus considérée que dans son pouvoir auto-créateur, tandis que la nature est le donné qui s'impose. C'est objectif. Donc c'est le donné qui s'impose. Tandis qu'au contraire, la personne, on l'a vu, elle a ce pouvoir auto-créateur. C'est le vivant spirituel qui a domine un soui. Hein. L'esprit, c'est ça. Il se domine lui-même. Et donc il est capable de s'orienter, de choisir sa fin. La personne implique une intériorisation, une immanence de plus en plus profonde, dans une autonomie qui se veut totale. Poussons jusqu'au bout. La suppression de la nature fait que la personne a cette autonomie dans ce qu'elle a de plus absolu. C'est ce qui rend la vie religieuse très difficile dans une perspective comme celle-là. Voyez. Parce que la vie religieuse n'est vivable que par une assemblée de prieurs. Ce qui ne serait pas vrai du tout. Enfin, mais ils ont toujours l'impression que le prieur fait ce qu'il veut. Tandis que les autres, ils doivent observer la règle. Dans leur perspective. C'est ce point de vue-là. Donc, cette autodétermination, c'est ça la personne. C'est cette autodétermination, ce pouvoir créateur de se déterminer, de s'orienter. Donc la personne implique cette intériorisation, cette immanence de plus en plus profonde dans une autonomie qui se veut totale. La nature, au contraire, est déterminée. Et elle nous lie au monde animal et à toute espèce de vivant. Et elle nous lie au monde physique. C'est pour ça que c'est ce dont on use. Tandis que la personne, c'est pas du tout ce qu'on use. C'est au contraire quelque chose dont on ne peut pas user. Le propre de la personne. Progressivement, il se produit une sorte de rivalité entre les deux, à tel point qu'on pourra parler d'une morale de la nature et d'une morale de la personne. Et on classera les gens comme ça. Vous, les traditionnalistes, vous êtes morale de la nature. Vous, les progressistes, morale de la personne. C'est très gros, hein, mais c'est un fait. les gens ne pensent pas plus que ça. Dès qu'ils ont mis une étiquette, ça va très bien. Ils savent même pas ce que c'est que la nature, parce qu'ils n'ont jamais compris que la nature était un principe. Ils ont regardé la nature comme le mot jamais-lé. C'est l'être en soi de Sartre. Oui, l'être en soi et l'être pour soi. C'est exactement la même chose. On retrouve les mêmes distinctions et les mêmes aberrations, puisque c'est opposer nature et personne. Mais c'est vider la personne de son contenu. Et c'est empêcher à la nature de pouvoir être spirituelle. C'est dans ce climat qu'il faut essayer de comprendre la position de Jacques Maritain, qui veut reprendre la doctrine thomiste de la personne, assumant la nature, tout en tenant compte des revendications modernes de la personne. Maritain est très moderne. C'est évident, c'est un converti. Converti par Bergson. Alors, Maritain est très moderne. Sensibilité moderne. Et par volonté, vous êtes thomiste. C'est sûr. Son impérium est volontaire. Et vous êtes thomiste. Alors Maritain écrit ceci dans De Bergson à Thomas d'Aquin. Ça, c'est intéressant parce que Bergson, il le connaissait bien. On peut dire qu'il y a comme une sorte de conflit chez nous entre personne et nature. J'entends entre la ligne métaphysique de la personne et la ligne métaphysique de la nature. La nature implique des structures constitutives, reçues et déterminées autonomes. Ces structures sont reçues. Elles ne viennent pas de la personne comme sujet premier d'opération indépendant. Notre intelligence a une nature supraphysique, notre volonté aussi. Elles sont ainsi, en tant que puissance ou faculté, distinctes de cette actuation immatérielle de surabondance, de ce jeu actuel qui est leur opération et qui, comme tel, émane de la personne et marque l'épanouissement de sa spontanéité. La nature de mon intelligence et celle de ma volonté sont reçues. Elles ne viennent pas de ma personne. Vous voyez ? Pas commode à bien comprendre. Ça part de cette distinction. Et ça, c'est peut-être très important. Ce qui est reçu. La nature implique des structures constitutives reçues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reçu ? Je crois que c'est le donné qui s'impose et déterminé de nous. Donc, en nous, il y a des limites. Nous sommes des êtres limités. Ces limites, c'est la nature. En nous, il y a quelque chose d'infini. Ce quelque chose d'infini, c'est l'esprit et la nature. C'est la personne. En gros, c'est ça. Mais vous voyez bien, ça ne part pas du tout de principe. Ça part d'une manière d'être. Être reçu, c'est pas un principe. C'est une manière d'exister. C'est abalio. On est reçu. Laisser participer, ça n'est certes reçu. Alors la nature est de ce côté-là. Tandis que la personne, elle implique quelque chose d'infini. Et donc de non reçu. Là, il faudra parler de la personne créée. Non reçu. Et encore, toujours dans le même lieu, de Bergson à Thomas d'Aquin, il y a en nous, animaux raisonnables, un désir naturel qui n'est pas précisément de nous, et d'un élément transcendantal en nous, à dépasser la condition humaine. Donc il y a un désir naturel à dépasser la condition humaine, ce qui ne va pas du reste sans quelques accidents, et nous fait trop souvent désirer d'être des animaux déraisonnables, parce qu'on peut se dépasser par le bas. Mais précisément, parce que ses aspirations à dépasser la condition humaine ne sont pas des aspirations de notre nature spécifique, mais seulement d'un élément transcendantal en nous. Elles restent inefficaces et conditionnelles. Elles n'ont aucun droit à être exaucées. Si elles sont exaucées, en quelque mesure, ce sera par grâce. Alors là, s'ajoute, vois-tu, son naturel. Et il montre qu'il y a une capacité à la grâce par ce désir de dépasser le conditionnement. Vous voyez ce que c'est que l'esprit ? On veut dépasser la nature et on définit tout en fonction de la nature. Parce que la nature, c'est ce qui est reçu, ce qui est déterminé. L'esprit, c'est ce qui nous fait dépasser notre conditionnement. Oui, dépasser notre conditionnement, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne dit pas que l'esprit, c'est l'intelligence qui cherche la vérité. Et la volonté, c'est ce qui cherche le bonheur. Martin ne fait pas que reconnaître la distinction de la nature et de la personne. Il insiste sur leur aspiration différente, voire opposée, pour mieux mettre en valeur les aspirations propres de la personne. Il dit toujours, c'est par la nature qu'on montre ce qu'il y a de propre à la personne. Aspirations qui ne peuvent s'expliquer que par un élément transcendantal en l'homme. Subjectivité transcendantale, un élément transcendantal en l'homme. Les conditions de la nature humaine sont alors dépassées. Mais souligne Maritain, nos aspirations personnelles demeurent inefficaces, il faut la grâce. On est devant une aspiration inefficace. Oui. Si, si, je crois qu'il y a ça, c'est assez net. Dont il conçoit la nature. Vous êtes en face des limites déterminées. J'aimerais presque mieux dire, la nature c'est ce qui est limité. D'où le conditionnement de l'homme. Il y a en nous un élément transcendantal qui fait le dépassement des limites. Absolument indéterminé, puisqu'il est transcendantal. Subjectivité. Subjectivité transcendantale. Quelque chose qui est au-delà. Il n'y a pas de subjectivité transcendantale dans la nature, puisque la nature est limitée. Et ceci est inefficace. Il faudra donc la grâce. La grâce, c'est ce qui rend efficace les aspirations transcendantales de la nature, de la personne. Très curieux de définir la grâce par l'efficacité, vous voyez. Ça a été dit avant Maritain. Alors, on voit bien. Et alors, ça se dit thomiste. Quand vous essayez de comprendre, vous voyez que c'est tous ces éléments-là ne sont pas du tout thomistes. Il y a du Suarez, stoïcisme. Il y a du Kant. Et puis, on fait l'amalgame. On bâtit ça. Oui.
Ce qui ne prend pas à l'envers, en la sortant de son contexte, c'est la preuve du désir naturel de voir Dieu, la question de...
Oui, oui. Mais, vous voyez, c'est évident, surtout Geffrey prend ça. Cette espèce de désir naturel qu'il y a du transcendant, mais ce désir naturel se précise chez un homme, c'est l'intelligence qui cherche la vérité. Donc la détermination au volcan suprême, il n'y en voit plus que le volcan inefficace. Alors on a une espèce, vous voyez, une espèce d'ontologisme personnaliste. C'est peut-être comme ça qu'on devrait le qualifier. Parce que c'est exactement ça. L'ontologie, c'est l'homme ne peut se définir que par Dieu. Ici, la personne, elle est efficace grâce à la personne, elle est efficace par la grâce. Donc, on reste dans l'ontologisme. Et en restant dans l'ontologisme, vous êtes dépendant de Hegel. Vous ne pouvez pas en sortir. On va continuer. Quelques petits aspects comme ça pour essayer de comprendre. D'autre part, pour montrer l'autonomie de la personne à l'égard de la communauté, parce que c'est le gros problème de Mounier, ça. C'est la personne et la communauté politique. Pour montrer l'autonomie de la personne à l'égard de la communauté, Jacques Maritain reprend la fameuse distinction de l'individu et de la personne. L'homme, comme individu, est une partie de la communauté. Comme personne, il est au-delà, il la transcende. Car il est individu par son corps et personne par son esprit. Donc on retrouve, si vous voulez, on retrouverait ce point de vue-là. Il est individu. C'est la nature. La nature individuée, l'individu, c'est le corps. Par le corps. Puis ici, alors, il est personne. Il est personne, c'est le point de vue de la personne. Il est personne par l'esprit. Par son esprit. Cette distinction entre individualité et personnalité, qui affirme Maritain, est fondamentale dans la doctrine de saint Thomas. Alors ça, ce serait très intéressant. Il dit ceci, la distinction entre individu et personne est plutôt l'un des thèmes fondamentaux du personnalisme de Maritain. Ça, c'est une critique, hein, vous comprenez bien, c'est de gros. Les fondements thomistes du personnalisme maritain. On peut la résumer ainsi. L'individu s'oppose à la personne, comme l'aspect de partie s'oppose à celui de tout. La personne, en tant qu'individu, est partie de la société. Mais en tant même que personne, elle est un tout. Donc, pour lui, Maritain projette, je crois, sur saint Thomas ce qui est vrai de lui. La distinction individualité-personnalité est fondamentale dans la doctrine de saint Thomas, dit Maritain. Et, Croto, elle est fondamentale dans la perspective de Maritain. Et tient aux racines même de la métaphysique thomiste. Peut se résumer ainsi. Là, on touche un problème. Qu'il faut au moins avoir entendu une fois dans sa vie. Il n'y a pas en moi une réalité qui s'appelle mon individu et une autre réalité qui s'appelle ma personne. Heureusement. Quand vous avez bien mangé, vous êtes une personne repue. Et quand vous avez bien digéré, la personne commence à s'éveiller. C'est bien ce point de vue-là. Il y a en moi une réalité qui s'appelle mon individu et une autre réalité qui s'appelle ma personne. C'est le même être tout entier qui en un sens est individu et en autre sens est personne. Je suis tout entier individu en raison de ce qui me vient de la matière et tout entier personne en raison de ce qui me vient de l'esprit. Comme un tableau tout entier et un complexe physico. En raison des matières colorantes dont il est fait, et tout entier une œuvre de beauté en raison de l'art du peintre. Forme et matière, voyez, c'est la distinction forme et matière. Et alors on fait forme et matière par rapport à individu et personne. Alors, je vous rappelle ce point de vue-là sur la distinction de l'individu et de la personne. C'est présent dans Garrigou-Lagrange. Le sens du mystère, le clair-obscur intellectuel du père Garrigou. Il nous dit ceci. L'individualité est fort différente de la personnalité ontologique, racine de la personnalité psychologique et morale. Car la personnalité est ce par quoi chaque être raisonnable est un sujet premier d'attribution indépendant dans son être et son action. L'individualité vient de la matière, à raison de laquelle Jésus est né en tel endroit de l'espace, à telle heure du jour, tandis que sa personnalité n'est autre que celle du Verbe fait chair. Donc, voyez, le Père Carrigou rattache ça tout de suite à la théologie de saint Thomas. Et c'est très vrai pour ceux qui vont le traiter. Le début du Verbe incarné, on voit très bien que le souci de saint Thomas, c'est de comprendre comment la nature humaine du Christ est parfaitement individuée. Le Christ est un homme parfaitement individué. Mais sa personne, c'est le Verbe de Dieu. Alors vous voyez que on a là, mais en raison de la foi, je n'y comprends rien, cette distinction. Je ne peux pas la comprendre. C'est la foi, je l'affirme, question de fait. Je ne vais pas, à partir de la foi, élaborer une distinction philosophique. C'est de l'égalianisme. Et je demeure dans le comment. Forcément, ça ne va pas être autrement. C'est très très curieux, vous voyez. À partir de la foi, dans le mystère du Christ, j'affirme cette séparation de la personne et de l'individu. Tout en affirmant que ce n'est pas de réalité. C'est bien évident, c'est errer contre l'expérience. Mais je ne vois pas le lien qui existe entre individu et personne. J'affirme la distinction. Et je le fais à partir du traité de l'incarnation chez saint Thomas. Alors, continuons un petit peu. On voit bien l'intérêt de ces interprétations, mais il faut se demander si elles ne cherchent pas à faire coïncider la pensée de saint Thomas avec une vision différente de la sienne. La distinction réelle que Maritain reconnaît entre nature et personne, la distinction n'implique pas nécessairement le conflit dont il parle. Peut-on vraiment parler d'un conflit entre personne et nature? Alors là, c'est pas seulement Maritain, mais c'est tous les modernes. Père Geffrey aussi. Il y a un conflit entre nature et personne. Disons qu'il y a distinction entre nature et personne. On n'est pas au même niveau. Mais on ne peut pas dire qu'il y a conflit. C'est-à-dire un drame. Vous portez en vous le germe de ce drame. C'est que vous êtes une nature. Et parce que vous êtes une nature, vous faites partie de toute l'humanité. La nature humaine. Vous avez un père, vous avez une grand-mère, vous avez des oncles, des tantes, ils ont tous la même nature que vous. Et puis, il y a la personne par où je suis un être autonome et farouchement autonome. Donc, par où je suis seul. En tant que personne, je suis seul. Personne n'est une personne comme moi. Vous avez le droit de le dire, ça. Chacun d'entre nous. C'est très reposant. Tandis qu'au point de vue de la nature, nous sommes tous communs. Nous sommes tous communs. Alors c'est dramatique de porter ça en soi. C'est vous qui avez frappé. C'est là, non ? Ça fait partie du drame, ça. C'est la limite du cours. Donc elle est pas le cours n'est pas personnaliste. Il est naturel. Alors je continue un instant. La distinction réelle que Maritain reconnaît entre nature et personne n'implique pas nécessairement le conflit dont il parle. Saint Thomas voit. Alors là c'est juste l'inverse de saint Thomas. Saint Thomas voit entre l'esprit et la matière une connexion mirabilis. On peut donc dire qu'il n'y a pas pour lui un ordre admirable. Vous mettez Saint Thomas voit entre l'esprit et la nature une connexion mirabilis, c'est la nature humaine. On peut donc dire qu'il y a pour lui un ordre admirable entre personne et nature. Le conflit que nous pouvons constater au niveau du développement de notre vie humaine ne se situe pas au niveau des principes, mais des désirs. Ça, c'est ce que je crois. C'est là où on voit très bien la différence. Saint Thomas, au niveau des principes, voit qu'il n'y a pas de conflit entre la nature et la personne. Il y a une connexion mirabilis. Tandis que Maritain, confondant philosophie et psychologie, au niveau des désirs, c'est très possible qu'il y ait un conflit, vous comprenez bien. Je ne suis pas un ange, j'ai une nature humaine. Et par mon esprit, je suis angélique. Alors, ma nature ne suit pas mon esprit. Mon esprit, il est personnel, il a pas de limite, il est transcendantal. Mais je suis obligé d'accepter que je suis debout ou que je suis assis. Pour les anges, ils ne récitent pas le Fils debout ou assis. Ils les récitent angéliquement. Tandis que l'homme est obligé d'accepter cette situation terrible.